也办了找公园的吧。马老师，对马老师呀，俺家也办了找公园的吧。
Mais ça va, on n'entend pas bien Daniel, mais on vous envoie un petit message de Rouen à la manif samedi après-midi.
De Bordeaux. Donc, bah, ok, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de monde mobilisé contre le CPE. Même malgré le mauvais temps, malgré la pluie, tous ces gens sont dehors pour protester contre le CPE et il serait quand même temps que le gouvernement se rende compte que personne ne veut de la précarité dans l'emploi pour les jeunes. Donc, bah, voilà, écoute. Allez, salut Daniel. Ciao.
Voilà, bonjour, petit reportage de la manifestation de Nice. Eh ben, il y a du monde de dernier pointage, on est 16 000. Espérons que ça marche et qu'on réussisse enfin. Merci, gros bisous à tous et bon courage.
Janine de Nîmes. Je suis mamie de 5 petites filles de 7 mois à 16 ans. Et je suis et serai dans la rue demain, samedi 18 mars, pour manifester contre le CPE. Je m'adresse surtout à ces jeunes qui ne se sentent pas concernés par le CPE ou qui se croient à l'abri du chômage. Est-ce que vous ne vous posez pas la question suivante? Comment se fait-il que les patrons soient pour le CPE? Auraient-ils par hasard un intérêt quelconque? Vous vous estimez peut-être meilleur que ces manifestants. Vous pensez que les patrons vont s'apercevoir que vous êtes bosseurs, intelligents et tout et tout. Mais savez-vous ce que c'est qu'un citron? Quand on l'a pressé, il ne reste que le zeste. Dans l'émission de la 2, à vous de juger, il y a même un patron qui a avoué qu'on lui faisait un cadeau avec le CPE. Je pense que la réflexion est très explicite. De plus, étant exonéré de charges sociales, rien n'empêchera les patrons de licencier sans raison et de réembaucher un CPE avec toujours la même épée de Damoclès au-dessus de la tête des jeunes. Comment envisager l'avenir avec sérénité après tout ça? Savent-ils ces mêmes jeunes que leurs grands-parents se sont battus pour que leurs enfants et petits-enfants aient des congés payés, qu'ils puissent se faire soigner gratuitement grâce à la sécurité sociale, qu'ils aient droit aux allocations familiales, pour que des syndicats et par conséquent des comités d'entreprise existent, et le code du travail protégeant les salariés, il ne s'est pas fait sans lutte. D'ailleurs, rien n'a été octroyé, il a toujours fallu l'arracher. Et ne cherchons pas d'alibi en rappelant la situation des enfants au Bangladesh, comme vient de le faire cet auditeur. Car si nous laissons faire ce qui se passe en France, bientôt nous en serons au même point. Alors, les jeunes, réfléchissez. Heureusement qu'il y en a qui le font.
Donc c'est Marie d'Annecy. Donc en fait, je sors de la manif du CPE. Donc c'était pour dire que j'étais très contente. J'avais rarement vu autant de monde depuis les manifestations contre Le Pen au second tour en 2002. Donc dans la manif, on a la CGT, on a aussi Attac, on a les anarchistes, les étudiants, les lycéens, les enfants, les parents et même les grands-parents. Voilà, donc gros bisous à tout le monde. Continuez le mouvement un peu et au revoir.
Oui, bonjour, c'est Jean-Claude Amara, porte-parole de Droit Devant. Pour vous dire que là, en ce moment, il est 18h20, nous sommes en train d'occuper l'ancien service social des 12 migrants à Paris ce samedi, avec 350 étudiants et sans-papiers qui ont conjugué leurs forces pour combattre d'un côté, pour les sans-papiers, le thème de l'immigration choisie des quotas de Sarkozy, de l'autre côté, les contrats précaires CPE-CNE, sachant que l'utilisation des sans-papiers, des quotas des esclaves des anciennes colonies est faite pour mettre en concurrence des salariés entre eux et puis abaisser les droits sociaux et arriver à une généralisation de la précarité. Au revoir, c'est Jean-Claude Amara, de droit devant.
Oui, bonjour Daniel, c'est Jacqueline de La Rochelle. À la manif, il y a un monde fou sur les quais. Il pleut, mais c'est quand même magnifique.
Il était un
premier ministre.
Il était un
premier ministre.
Eh ben, salut toute l'équipe de là-bas, c'est j'y suis en manif à Vienne, petite ville, hein, pas grande, mais grosse manif, je sais pas combien de personnes, je vais pas me risquer à dire. Eh ben c'est cool, on est là, on est sur le front, courage tous, c'est que la lutte continue, solidarité, et puis hein, le CPE à la poubelle, bye bye.
Bon, salut Daniel, ici. Un beau samedi matin un peu frisqué de Quimper, 6000 personnes avec armes et bagages, fanfare, drapeau et machin, et le CPE, il a du plomb dans l'aile dans le quartier, moi je te le dis. Hein. Bon, c'était Jean-Marie de Douarnenez, à bientôt, salut.
C'est Emmanuel. J'appelle pour dire que je me joins de tout cœur avec les étudiants et encore plus les étudiantes des manifs. Et si je ne peux pas être présente aujourd'hui au quart des défilés, c'est que je crains un peu les mouvements de foule ou les gaz lacrymaux pour l'enfant que je porte. Et je voulais dire que si je suis enceinte à 30 ans de mon premier enfant, et seulement à 30 ans, c'est que tout simplement que l'emploi précaire existe aussi, même après les études longues et même voir les études très longues. Voilà, donc c'était Emmanuel.
Trop fort, elle est trop forte, ce Villepin. Merci et bravo, monsieur Villepin. C'est pas tout le monde qui arrive à susciter une telle vague de fond, une telle unanimité. C'est vrai que c'est un travail d'équipe, c'est vrai que vous n'êtes pas seul, mais c'est quand même assez formidable d'arriver à mobiliser une telle majorité dans ce pays. Merci, 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 merci pour ce samedi à Marseille. C'était vraiment printanier, malgré le ciel un peu voilé. Partout en France, c'était absolument formidable. Merci, pourvu que ça dure. En tout cas, voilà, vous entendez les messages. Le répondeur de la basse, j'y suis, l'ami technicien est tellement troublé qu'il a appuyé sur le mauvais bouton. Des messages, vous avez entendu, de Valence, de Rouen, de Bordeaux, de Nice, d'Annecy, de Paris, de La Rochelle, de Vienne, de Quimper, de Pau, de Lyon, c'était les, on va les entendre, ceux-là, de Lyon, le repère des amis de la basse, j'y suis, de Lyon, etc., etc. Merci à tous. Aujourd'hui, nous, on part en Inde. Vous vous souvenez qu'on est en voyage en Inde, et plutôt, plus précisément, aujourd'hui au Bangladesh. On a fini vendredi avec, alors mais quel rapport il peut bien y avoir entre ces gens qui souffrent, qui sont en dessous de tout au Bangladesh, et nous qui manifestons dans notre pays pour des droits menacés et qu'on veut reprendre. Bah, je crois que le rapprochement, il est évident. Vous avez été nombreux à laisser des messages dans ce sens. On peut hélas pas passer tous les messages qu'on reçoit, mais bien sûr, avoir le rapprochement possible et à refuser toute culpabilisation en disant, mais attendez, c'est pire ailleurs. Évidemment que c'est toujours un chantage qu'il faut refuser, et c'est un chantage évidemment que il est hors de question que nous le fassions. Donc on part pour le Bangladesh après les messages que voici, que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis, je rappelle le numéro du répondeur 01 56 40 37 37.
Oui, salut Daniel, salut à tous les auditeurs, c'est Philippe Decau en direct de la manifestation. Alors malgré les quelques gouttes de pluie ce matin, on est très très nombreux, je pense qu'on est plus nombreux que la dernière fois. J'ai essayé de me mettre calme, j'espère qu'on m'entend. Et voilà, j'espère qu'on tient bien, bon, j'espère que c'est comme ça dans toutes les autres villes. Allez, tenez bon tous, à très bientôt, ciao.
Salut, c'est Cécile de Lyon avec les amis du repère de la basse J'y suis de Lyon. Et ben, on est encore à la manif avec notre banderole verte. Et on continue, à bientôt, salut.
Ouais, bonjour tout le monde, en direct de la manif de Brest, où on est une bonne dizaine de milliers à penser que Villepin a fini sa période d'essai. Voilà, plus, salut.
Alors ici en direct de Cayenne, c'est la Guyane, et la Guyane manifeste contre le CPE.
Nous
manifestons tous contre le CPE.
Aujourd'hui, à Lyon, le 18 mars à 11h, a eu lieu une manifestation contre le CPE. Elle a réuni des milliers de personnes qui ont défilé de façon très calme et dans la joie. Il n'y a pas eu d'incident. À 14h, toujours à Lyon, à l'endroit même où la manif contre le CPE prenait fin, une autre manif s'est déroulée. En effet, des manifestants turcs reniaient le génocide arménien. Une pure démonstration de négationnisme, condamnée par la loi, aujourd'hui même autorisée par la préfecture. Sous couvert de contester le lieu où doit se construire le mémorial du génocide arménien à Lyon, ce mouvement fasciste a pu défiler dans la ville et afficher ses convictions. Il a semblé important aux personnes présentes de manifester leur désaccord face à ce manquement au devoir de mémoire et à la dénégation du génocide arménien. Des altercations ont eu lieu. Plusieurs lacrymos ont été lancés sur les opposants à cette manifestation par les forces de l'ordre, qui, il faut quand même le préciser, ont évité l'émeute et le carnage. Il me semble nécessaire de préciser que ces altercations n'ont aucun lien avec la manif contre le CPE, qui s'est déroulée de façon pacifiste et dans la joie, je le répète. Il ne faut pas qu'il y ait un amalgame entre deux événements qui ont eu lieu le même jour, au même endroit. Alors, va savoir si cet événement ne servira pas à discréditer le mouvement anti-CPE sur Lyon. C'est Noémie de Lyon.
Oui, salut Daniel, salut à toute l'équipe. C'est Pierre de Pamiers en Ariège. Et pour te dire que l'Ariège bouge vachement puisqu'on vient de bloquer la 20 dans les deux sens. Donc il y a 4000 personnes d'autres qui bloquent la 20 par les deux sens. La police a été complètement débordée, elle s'est laissée surprendre. Et puis ben voilà, on est là et on n'est pas prêt de bouger. Donc on a pas retiré le CPE. Alors David, je vous prends le camp, enlève-le et je te promets, on laissera passer les bagnoles. Allez, salut Daniel, à bientôt. C'était Pierre de Pamiers en Ariège.
Udjol.
Jafar Ali.
Jafar Ali.
Fatdos.
Nur Muhammad.
Nur Muhammad.
Liton Ali.
Liton Ali.
Iqbal Hoshain.
Iqbal Hoshain.
Onna Muhammad Ajibat.
Ajibat.
Onna Muhammad Shah Alam.
Muhammad Shah Alam.
Shahin Alam.
Shahin Alam.
Muhammad Sajidul Islam.
Muhammad Sajidul Islam.
Ashim.
Ashim.
Give.
Give. He's Mr. Give. Onna Hoshain Give. Ik ase.
Daniel.
Daniel. Daniel. Daniel.
Salut, c'est Mr. Gabe et Mr. Daniel. Là-bas, si j'y suis, comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise?
Flight number 2, arriving from...
Ah, c'est la poussière, on me fait reculer parce que c'est de la grosse poussière et c'est vrai que c'est des plaques de couleur recouvertes. On nous fait pousser. Là, c'est le gars qui est assis sur un gros morceau de chaudière, ça ressemble à ça en tout cas, et qui sont débités en morceaux. Et bien sûr, aucun gant, aucun appareil pour se protéger, aucun lunette, rien du tout. Il a le nez dedans. Ça fait une odeur très très forte d'ailleurs. Là, vous voyez, c'est ça en fait. Les tôles sont à peine finies d'être découpées qui sont déjà en train de la débiter. Là, les gars sont en train de couper au chalumeau une espèce de bite d'amarrage qui dépasse pendant que les autres sont vraiment collés contre lui. Il a le chalumeau à la main pendant que les autres sont en train de prendre la plaque encore bouillante, encore fumante. Voilà, là, il reste un petit bout à découper, bout pour la détacher, pour pouvoir la porter. Et porter tout de suite après à main nue. Alors on prend une espèce de bout de, je sais pas quoi, si, là, c'est un bout de vieille laine de verre qu'il prend. Et il commence déjà à la porter. On se répartit autour, chacun connaît sa place. Le contremaître est à l'arrière et c'est lui qui donne le rythme. C'est soulevé. On la met sur l'épaule.
Hey, hey, hey,
hey.
Arafat, ils marchent vraiment en canard, chacun en même pas, et simplement ils n'ont pas regardé devant eux comme ils sont tellement à portée dans le rythme qu'il y en a un autre qui est arrivé perpendiculairement, ils ont failli se percuter. Tout le monde s'écarte et on va l'acheter celle-là aussi.
Ok.
C'est comme un retour dans notre préhistoire sociale. dans notre préhistoire sociale, je dis bien. Au bout du CPE, il y a le Bangladesh. Absolument. On parlait avec le patron de ce chantier de destruction des navires, de shipbreaking et de recyclage des navires, qui nous disait, moi j'ai 1500 salariés. 1500. Il sait pas exactement combien il en a, parce qu'il pourrait en avoir 3000 ou 15000, ça reviendrait exactement au même pour lui. Nous sommes ici à Chittagong, donc au Bangladesh, donc sur l'un de ces chantiers où on démolit et on recycle ces navires. 25 à 30 000, on ne sait pas très bien, hommes pour la plupart, même à 99%, travaillent sur ces chantiers. Aucun droit, aucune assurance contre les accidents, contre les maladies. Par exemple, les maladies dues à l'amiante. Il y a beaucoup d'amiante sur ces navires. Travail des enfants, on l'a vu l'autre jour, des enfants de 11 ans qui travaillent sur ces chantiers. Bref, des conditions épouvantables et qui étaient celles de l'Europe, de l'Angleterre, de la France, dans la première moitié du 19e siècle. Et il a fallu, entre ce passé et aujourd'hui, eh bien, toutes ces luttes que cette auditrice évoquait aujourd'hui, et qu'on sent bien actuellement que c'est la valeur extraordinaire, ce monument social, ce monument historique social qu'ont été ces luttes inlassables des travailleurs, de nos parents et de nos ancêtres qui ont acquis ça. On va voir aujourd'hui ce que c'était. On va voir ce que c'était aujourd'hui avec ces travailleurs, avec eux au jour le jour, dans leurs locaux, dans leur dortoir, et aussi on va assister à un embryon de réunion, non pas même syndicale mais associative, et on va voir les difficultés extraordinaires qu'ont ces hommes à lutter, à se battre dans ces conditions terribles. Il y a eu la question, vous avez été nombreux à laisser des messages en disant comment peut-on faire un rapprochement dans une même heure, dans une même émission, c'est arrivé accidentellement l'autre jour, entre le Bangladesh, ses conditions de travail et la revendication des lycéens. C'est vrai qu'autour de ça, il y a l'idée de ne soyons pas égoïstes, on a des richesses ici, quand on délocalise, laissons le travail partir là-bas. C'est évidemment ceux qui laissent les invirables, c'est les indéboulonnables qui disent des choses pareilles. Mais en fait, il ne faut pas croire que ces populations très pauvres s'enrichissent ou même voient leur niveau de vie monter aussi peu que ce soit. C'est faux. Il faut bien comprendre que si le travail va là-bas, en Chine, au Pakistan, au Bangladesh, en Inde, où vous voulez, c'est parce que ces populations sont pauvres, soumises et incultes que le travail va là-bas. Mais dès qu'il y a un petit progrès social, une petite revendication minimum, eh bien le travail va ailleurs où il peut être exécuté dans les conditions les plus basses, avec les salaires les plus bas. Il faut surtout, et ceux qui, pendant un certain temps, quelques années, ont vu leur vie un peu s'améliorer, retombent à la case pauvreté départ. C'est ça qu'il faut bien comprendre, et c'est ça que ces reportages, modestes et géniaux, essayent de démontrer. C'est là-bas si j'y suis, c'est France Inter jusqu'à 18h.
Voilà quelques ouvriers qui viennent nous voir, qui ont dû être triés sur le volet. Ils vont nous dire que tout va bien. Qu'est-ce que vous faites, vous? Quel est votre boulot là-dessus?
Je coupe le fer dans le bateau.
Est-ce que c'est dangereux?
C'est pas très dangereux, mais il faut quand même faire attention quand on travaille.
Mais il y a eu des accidents, on nous a dit qu'il y avait eu des accidents très graves, terribles.
Non, il n'y a pas tant d'accidents. Il n'y a pas beaucoup d'accidents.
Il n'y a pas beaucoup d'accidents?
Oui, j'ai déjà vu des accidents, mais ce n'était pas grave. S'il y a de l'essence à l'intérieur, parfois il y a des accidents, mais s'il y a des accidents, tout de suite on prend des mesures pour les sauver.
Il y a un médecin sur le chantier? Ça c'est le superviseur.
Il y a un médecin à côté, pas sous le chantier. Et s'il y a un accident sous le chantier, alors c'est les contremaîtres qui sont là, qui s'occupent d'abord, et après nous sommes emmenés au centre médical où un médecin est appelé.
Dites-nous un peu vos salaires quotidiens. Combien vous gagnez par jour?
Je gagne 150 taka par jour.
2 euros.
150 taka pour 8 heures. Mais si je travaille plus de 8 heures, alors je gagne un salaire supplémentaire.
Ça, c'est le patron qui fait préciser ça.
Oui, oui. Nous, on est mal renseignés, là, parce que je vous ai dit que vous travaillez 12 heures.
Ça dépend. Quelquefois, nous travaillons 12 heures. Quelquefois, nous travaillons 11 heures. Ça peut être plus, ça peut être moins.
Ok, on va pas vous prendre votre temps, alors. On va pas vous prendre trop de temps.
Donne le ban. Et hop, ils repartent bosser. Ils ont accompli leur mission, ils ont fait ce que le patron leur a dit de faire.
Évidemment, c'est une visite tout à fait dirigée par le responsable, le contremaître, qui dicte les réponses. Et les gars sont très apeurés dans leur façon de répondre. Là, par exemple, pour donner tort à tout ce qui vient d'être dit, j'aperçois un gars sur deux béquilles et qui n'a qu'une jambe. Par exemple, effectivement, de temps en temps, on voit des silhouettes un peu plus petites et effectivement, c'est les enfants. Il y a très peu de gars qui portent des casques, très, très, très peu. Et donc là, ils ont inventé un truc, c'est de recevoir les visiteurs, de les mettre sur cette terrasse clinquante et rutilante, les asseoir dans ces fauteuils en plastique qui ressemblent à des grandes cuvettes en plastique récupérées sur des bateaux. Et là, on va être dans une situation absolument épouvantable où on va boire des sodas, manger du raisin, manger des fruits, du haut de notre balcon impeccable, en contemplant ces pauvres bougres, cette humanité en train
d'années de la terre.
Les damnés de la terre et de la mer réunis. Une situation du 19e siècle. Quoi. On est vraiment revenu un siècle et demi en arrière.
C'était comme ça au temps de l'Union soviétique, quand il y avait des délégations de visiteurs étrangers, français par exemple, bien on leur montrait des ouvriers qui étaient ravis, contents, musclés, bien nourris. C'est la même mise en scène, on pourrait très bien se satisfaire de ça. Certains visiblement s'en satisfont, à en juger par certains reportages que nous avons pu lire ça et là. Et évidemment, il faut avancer quand même un petit peu, essayer d'aller voir derrière ce qu'on nous présente. Ce qui est important, c'est de comprendre que le Bangladesh, comme beaucoup des pays en sous-développé ou en voie de développement, comme on voudra, sont des pays sans statistiques. Il n'y a pas de données chiffrées. Il n'y a pas. Alors que nous réfléchissons, toutes nos décisions à nous sont prises sur il y a tel pourcentage, tant de ci, tant de ça, etc. Comment compter, par exemple, comment évaluer le nombre de victimes de l'amiante dans un pays comme le Bangladesh, et à plus forte raison dans un pays comme l'Inde, où l'amiante, je le rappelle, est encore utilisé et n'est pas du tout un matériau interdit. Comment mesurer quand les ouvriers qu'on voit sur ces chantiers, une fois le travail fini, c'est-à-dire une fois qu'ils ont fini de découper le navire, et en attendant le suivant, retournent dans leur village, dans leur région, beaucoup viennent du nord du Bangladesh, de la région de Bagora, celui qui est malade, il revient pas au boulot. Mais qui va dire, c'est un cancer? Peut-être qu'on doit être capable quand même de diagnostiquer le cancer. Mais qui va faire un lien entre ce cancer et l'amiante? Évidemment que l'état sanitaire du Bangladesh interdit ce genre de rapprochement, et à plus forte raison, tout calcul, tout pourcentage, tout chiffre. Et c'est pourtant sur ces chiffres que les choses dans le monde s'établissent. On verra que des ONG s'y emploient. Mais avec quelle difficulté. Alors, ce qui nous a été dit de tous les côtés, c'est l'impossibilité totale de du syndicalisme. Alors ça, s'il y a vraiment une chose qui est prohibée, qui est pourchassée, qui est le syndicaliste au Bangladesh, c'est l'ennemi, c'est le terroriste. Surtout, on verra, à Dhaka, c'est un peu différent, mais à Chittagong, pas question. Le syndicat, oui, le regroupement des patrons est très très ferme là-dessus, pas de syndicalisme. Pourtant, nous en avons rencontré un syndicaliste, plutôt un ex-syndicaliste, qui aujourd'hui s'est mis un petit peu à l'écart, qui tient un petit commerce au bord de la route, mais qui est très discret, on sent un homme pourchassé, on sent un homme courageux et on sent un homme résistant. Il veut qu'on dise son nom, alors on le dit, c'est Salim Oula Selim.
J'étais un activiste politique comme élève.
আমি পার্টির নির্দেশে তখন শিববেকিং এ চাকরি নিলাম এবং শিববেকিং শ্রমিকদের দিকে কাছে থেকে দেখার জন্য
সুযোগ পেলাম. J'ai commencé à travailler au chantier à la direction de bureau et j'ai eu la chance de voir la condition de travail des ouvriers.
প্রথমে আমরা সিন্ডিকেট আমি কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকদের এই সকল সমস্যাগুলো তাদের অ্যাক্সিডেন্ট এবং
quand j'ai vu les accidents, la condition de travail qui était très mauvaise des ouvriers, après j'avais décidé de former un syndicat.
আমি কাজ করতে গিয়ে 1998 সালে একবার একটা
Alors, parce qu'on dit concernant le shape breaking que c'est impossible, c'est très très difficile de créer des syndicats. Donc, vous avez été le premier à créer un syndicat ?
C'était très difficile parce qu'avant, nous n'avons pas du tout les syndicats pour les droits d'ouvriers. Donc, c'était très très difficile. Nous avons eu beaucoup d'obstacles.
আমরা ওখানে তারপরেও শ্রমিকদের এই সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করতেছি এবং আমরা চাচ্ছি যে
selon le rapport de la Fédération internationale des droits de l'homme, il y a eu des menaces du propriétaire de votre propriétaire qui s'appelait Shokat Ali.
আমরা একটা প্রায় 700 শ্রমিকের একটা মিছিল করছিলাম আমরা
এবং manifestation de 700 ouvriers en 1998
ধর্মঘট করছিলাম.
Nous avons fait les grèves.
তারপরে ওই ধর্মঘটে আমরা এখান থেকে মিছিল শেষ করে আবার বক্তব্য দিতেছিলাম তখন সেখান থেকে
আমাদের en train de donner notre discours, de faire le discours. À ce moment-là, nous avons été arrêtés et nous avons été emmenés, nous avons été enfermés, nous avons été torturés par le patron.
Par le patron lui-même ?
Pas lui-même, mais il a ordonné, il a recruté des gens pour nous emmener.
Physical torture.
Et c'était la torture physique, ils nous ont battus.
Il vous a fait signer un papier en vous faisant promettre d'arrêter.
Mais quand même, nous avons continué à faire des mouvements, à travailler, à protester. J'étais obligée à signer le papier, c'est parce que j'étais sous menace de mort, et si je n'avais pas signé à ce moment-là, je serais tuée.
Sous la menace d'une arme, qui tenait l'arme ?
অস্ত্র তারাও এমনি তাদের সিকিউরিটি থাকতো, তাদের সিকিউরিটি নিজস্ব সিকিউরিটির অস্ত্র বা আমাদেরকে জীবনের ভয়ে বা আমাদেরকে যখন
সলি জন কি ট্রাভাইয়ে পুর লর সিকিউরিটি
না সাইন্টিস্ট আমাদেরকে তো ওদের অফিসের কক্ষে নিয়ে গেছিল, কক্ষের ভিতর আমাদেরকে তারা, তাদের অফিস কক্ষের ভিতর আমাদেরকে তারা
বাইরে
বাইরে
স্টেট nous avons été enfermés mais nos camarades ont continué à faire la grève.
Et comment vous avez arrêté la grève?
তারা যখন দেখলো আমাদের উপর খুবই নির্যাতন হচ্ছে, আমাদের নির্যাতন যখন বেড়ে গেছে তখন তারা শ্রমিকরা সেখান থেকে আসতে, তাদেরকেও শ্রমিকরাও যাচ্ছিল না, তাদেরকে বিভিন্ন ভয়
দেখা
কষ্ট করে এবং আমাদের জীবনের উপর সবসময় আমরা ঝুঁকি নিয়ে থাকি.
Alors justement aujourd'hui, est-ce que nous sommes en train de parler à un homme qui est sous menace de mort?
Oui.
Qui vous menace?
C'est মানে আমাদের সমাজে আসলে শ্রমিকের পক্ষে কাজ করতে গেলে সেখানে মালিক গোষ্ঠীর সব সময় একটা ভয় আমাদের উপর কাজ করে, কারণ আমাদের অনেক সহকর্মী বিভিন্ন জায়গায় ভাবে বিভিন্ন খানেও আমাদের.
C'est pas nous seulement mais dans ce pays n'importe où quand quelqu'un travaille pour l'amélioration de la condition d'ouvrier, c'est toujours un problème avec le patron. C'est toujours la même menace, le même risque. Menace de mort.
Aujourd'hui, on vous a trouvé dans cette petite boutique au bord de la route. Là, vous tenez un magasin d'appels téléphoniques, une cabine téléphonique un peu. Ça veut dire que vous avez décroché, vous avez arrêté, vous êtes mis de côté?
Je ne travaille plus sur le chantier, maintenant c'est mon boulot, cette cabine téléphonique.
Mais alors, aujourd'hui, en clair, est-ce qu'il existe un syndicat ouvrier sur les chantiers?
Il n'y a aucun syndicat sur leur santé.
Elles sont quelques femmes ici à Dakar qui manifestent suite à un incendie dans une usine de confection de Chittagong, où un peu moins d'une centaine de femmes, 90, ont été tuées, ont été brûlées dans cet incendie. Nous y viendrons, puisque nous avons été témoins de cet incendie, simplement pour vous faire entendre les voix de ces femmes peu nombreuses dans cette manif à Dakar, mais elles ont au moins le courage, la rage et le courage, dans courage, il y a rage, de s'exprimer, mais c'est pas le cas du tout à Chittagong. Elles le font au risque de leur, peut-être pas de leur vie, mais en tous les cas d'une répression très très dure qui règne au Bangladesh contre tout mouvement ouvrier et contre tout mouvement syndical. Pourquoi est-ce que c'est important de penser à cela? Parce que évidemment que tous ces travailleurs, ces travailleuses, ces ouvriers, ces ouvrières qui ne trouvent pas de moyens de s'exprimer, de revendiquer, qui sont bâillonnés et opprimés, se tournent vers les mouvements islamistes radicaux qui se nourrissent de cette répression et de cette oppression et qui évidemment recueillent et accueillent ces frustrations et trouvent peu à peu, y compris dans ce pays et sans doute dans ce pays davantage que dans d'autres, une base, une racine populaire. Donc si on veut lutter contre ce qu'on appelle le terrorisme, qui est un mot sur lequel il faudrait longuement discuter, eh bien voilà l'une des raisons, l'une des sources, l'une des racines de ce fameux terrorisme. Il est dans la répression syndicale, dans l'interdiction à ces travailleurs réprimés de s'exprimer et de lutter. On est toujours avec Salim Oula Selim qui, on l'a compris, aujourd'hui a dû, par la force des choses, il a une épouse, il a des enfants, d'arrêter, de raccrocher dans sa lutte syndicale, mais pas complètement.
J'ai arrêté de travailler comme un activiste, mais j'ai quand même la communication avec nos camarades.
Pourquoi vous avez arrêté? Parce que vous étiez découragé ou à cause de la peur ou...
এবং আমাদের সংগঠনের যে সাংগঠনিক শক্তিটা কম এবং আমরা চাচ্ছি যেখানে ভিতরে ভিতরে আমরা আগের শ্রমিকদেরকে সংগঠিত করতেছি.
N'avons pas assez de puissance et le syndicat elle-même n'est pas très fort et nous avons pensé à nous organiser d'abord avant de former un syndicat plus grand.
Est-ce que ça veut dire que les patrons ont gagné?
Nous
avons juste changé la manière de travailler. Nous n'avons pas quitté la révolution. Nous allons continuer encore à améliorer la condition d'ouvriers. Seulement, il n'y a pas de syndicat. Nous avons changé le chemin.
Qu'est-ce que vous dites ? Vous dites la révolution ? Ça veut dire quoi, la révolution ?
Mais je voudrais faire un grand mouvement avec tous les ouvriers du pays et ça prendra du temps. C'est ça que je prends en ce moment.
Dans votre syndicat, parmi eux, il y a des travailleurs, des chantiers. Mais si les patrons savent qu'ils viennent à ces réunions syndicales, qu'est-ce qui leur arrive ?
Ils ont immédiatement licencié dès qu'ils savent qu'ils sont reliés avec nous et le problème continuera. Dès qu'ils sauront qu'ils sont mêlés avec nous, ils perdront leur boulot.
Alors, donc il faut que ce soit, c'est une activité clandestine.
Absolument, c'est l'activité clandestine. Quand on fait quelque chose de bon, il y a toujours de risques, mais il faut du courage aussi pour faire des bonnes choses.
Kanaya shajaya devo manandorani, kanaya shajaya de, kanaya shajaya devo manandorani. Kanaya shajaya de shajaye de chikon kala gole de ma bolo mala shajaye de chikon kala gole de ma bolo mala shiya vestro muroli de gumanandorani shajaye de chikon kala gole de ma bolo mala shajaye de chikon kala gole de ma bolo mala shiya vestro muroli de gumanandorani kanaya shajaya de kanaya shajaya de kanaya shajaya de kanaya shajaya de gumanandorani kanaya shajaya de kanaya shajaya de kanaya shajaya de
un lion local. L'unique source de lumière, c'est une petite lampe à pétrole bricolée.
Donc c'est local, des gars qui sont là, des ouvriers. Ils sont avec une grosse marmite et ils sont en train de faire la tambouille. Et sur, on voit un peu mieux maintenant, parce que l'œil s'habitue. Et sur les poutres en bambou, ils accrochent leurs fringues, leurs sacs de plastique. Et c'est les structures de bambou, là, la cabane.
Salam alaikum.
Local people is the owners of this house.
C'est les gens du village qui sont les propriétaires de cette maison qui hébergent.
Et qui vous louent à vous.
Yeah.
Combien vous payez ?
Mais c'est pas le loyer, c'est le conducteur qui paye.
Après
c'est le recruteur. Foreman est le malik.
Ici, c'est le conducteur qui paye. C'est le recruteur qui les emmène du nord du Bangladesh. Et pour emmener, il reçoit une somme d'argent de par le propriétaire, par le patron. Et c'est pour ça, de cet argent, il paye leur loyer.
C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont complètement sous la houlette du recruteur qui va les recruter là-haut chez eux dans leur région qui est Bahora, et c'est là-bas que le recruteur va les recruter. Il les amène ici et ici c'est lui qui les loge et il prélève la part du loyer sur leur salaire, c'est-à-dire qu'ils sont complètement dépendants du recruteur.
Voilà.
Oui, c'est exactement ça.
C'est ça.
C'est les plus anciens qui arrivent.
Il rentre du boulot.
Il est tombé maintenant, il est quoi, il est 6h30 par là ?
Il est 7h, la nuit est tombée. Les gars, ils rentrent du boulot.
Alors c'est une rencontre presque clandestine, et c'est ça, il fait nuit, on est aux alentours de Chittagong, aux alentours d'un de ces chantiers de recyclage des navires, avec ses ouvriers. Et on est avec des organisateurs d'une ONG qui s'appelle IPSA, Young Power on Social Action, qui, dans cette région du Bangladesh, mène un certain nombre de programmes, comme on dit, d'actions sociales, dans la santé, dans l'éducation, dans les droits humains divers et variés, et qui sont soutenus par des organisations comme l'UNESCO, comme Save the Children, etc. Un certain nombre d'ONG qui soutiennent cette ONG, qui a donc pour but ici la conscientisation de ces travailleurs, de ces salariés qui viennent, je l'ai dit, du nord du pays, qui sont corvéables à merci et qui pour beaucoup sont soumis, complètement soumis. Leur soumission semble intériorisés. Si on leur dit mais vous portez pas de casque, par exemple, certains disent oh mais parce qu'on est des mauvaises gens, on fait pas attention, on est distrait. Alors on sait jamais la part évidemment qu'il y a de peur face au patron, face au dominant, mais il y a un moment aussi la domination est complètement intériorisée. Ça arrive, on connaît ça, ça nous est arrivé dans le passé, ça nous arrive encore beaucoup à nous. C'est être libre ne va pas de soi. Trouver la force de se révolter contre sa propre condition suppose une conscientisation. Ça va pas de soi. Alors ces gars-là font ce travail, les gens de cette ONG. Je ne dis pas que sans eux il ne se passerait rien. Il y a un certain nombre, on l'a vu avec ce syndicaliste, il y a un certain nombre de travailleurs qui par eux-mêmes, d'eux-mêmes, essayent de lutter pour un minimum de dignité. Mais on voit là dans cette nuit qui nous entoure, avec dans ce dortoir où ils sont 20 ou 25 bons hommes à dormir là-dedans, que c'est pas évident. Et ça nous renvoie donc à notre préhistoire sociale. Je suis pas historien évidemment du social, mais on a assez lu de Jack London à Dickens, en passant par Zola, pour savoir ce qu'était la condition ouvrière et paysanne aussi d'ailleurs au début du 19e siècle. Et on est en présence de la même situation, de la même nuit, avec dans cette nuit quand même des yeux grands ouverts.
Pran pa ki pa lai le de ho ardi bena shara rate morle shakal hole bolbe bashi mara प्राण पाकी पालाई ले दे हो अर्दी बेना शारा राते मोरले शकाल होले बल बेबासी मारा.
On est dans ce dortoir, cette espèce de cabane où dorment les ouvriers des chantiers de démolition des navires. Et là-dedans, dans cette cabane, ils sont 25 à dormir. C'est chez eux, quoi. Et là, ils rentrent du boulot. Ils ont commencé ce matin à 7h et il est 7h du soir. Donc, ils ont 12 heures de boulot dans les pattes. Ils ont dû faire un petit peu de toilette. Et maintenant, ils sont réunis là autour de cette méchante lampe à pétrole qui éclaire les visages et qui éclaire les yeux qu'ils ont tous braqués sur nous, parce qu'ils se demandent qui on est. Mais ils savent qu'on est avec des gens d'IPSA, qui est une ONG, qui travaille, ben là, en l'occurrence, sur la conscientisation, un vieux mot, des gens qui sont là, qui n'ont aucun droit, absolument aucun droit. Et donc, on assiste à un moment où des gens sont venus essayer de leur dire, voilà, vous avez des droits, voilà, vous prenez des risques, voilà, il y a l'amiante, et l'amiante, et ben voilà, c'est cancéreux, etc. Ils vont sans doute leur parler de choses comme ça. Et c'est des moments, évidemment, parce que ça, c'est quasiment clandestin, c'est une réunion quasiment clandestine. Alors, moi, je voudrais savoir, c'est qui est venu vous chercher là-bas, dans vos villages du Nord ? Comment t'as été recruté, toi, par exemple ?
Je suis venu à la maison de la
Alors, je viens d'une région très très pauvre. Nous faisons de la cultivation là-bas, mais c'est pas suffisant. Donc, les conducteurs, ils vont pour nous chercher.
Le recruteur,
il nous paye une somme d'argent, 1 500 taka, et il nous emmène ici. Nous travaillons ici, et comme ça, nous les remboursons.
Il donne de l'argent à vos familles.
Il nous paye là-bas. À nos familles, et après nous emmène ici et nous travaillons et nous essayons de lui rembourser.
C'est ça, donc vous êtes endetté vis-à-vis de votre recruteur. Et quand il n'y a plus de travail, qu'est-ce qui se passe? Quand le bateau est terminé, qu'est-ce qui se passe?
Quand il n'y a pas de travail, on retourne au village et on essaie de faire quelque chose là-bas.
Ok, on va parler avec le plus vieux. Quel est celui qui est là depuis le plus longtemps? Oui, bonjour, comment vous vous appelez?
Je m'appelle Habib Rahman.
Ça fait 13 ans que je travaille ici.
Et vous?
Pablo.
Pablo. Vous, c'est quoi votre boulot à vous deux?
Pilote de colis.
Mais je dirige une équipe.
Toi aussi, Pablo, tu diriges une équipe?
Pilote de colis, pilote de colis.
Je coupe les plaques. Je fais porter.
Tu les fais porter par des équipes?
T'es celui qui chante la chanson en donnant les ordres?
Toi qui travailles au Troy, tu as dû voir pas mal d'accidents.
Si accident dhoren jahaj hoyto fitter group e jahaj er upore jara kaaj kore.
Les accidents se passent le plus, c'est avec ceux qui travaillent en haut.
Ceux qui travaillent en haut des navires, c'est très très haut, parce qu'il faut imaginer la hauteur de ces montagnes d'acier.
Beaucoup sont morts aussi à cause de l'incendie. C'est là aussi, on a beaucoup d'incidents. Quand on porte des plaques en fer, il y a beaucoup qui sont écrasées. La plaque entend bon pour écraser les gens.
Il faut bien comprendre le climat, la situation dans laquelle on est, le courage qu'il faut à ces ouvriers pour parler, parce qu'ils savent très bien qu'ils risquent d'être dénoncés, qu'ils risquent de se faire virer, qu'ils risquent de se faire... Parce qu'il y a des postes différents, il y a quand même... Voilà, on peut être découpeur, ou porteur, ou trieur, etc. Et évidemment, si on se fait repérer dans ce genre d'association, dans ce genre de soirée, on risque de réunion, je veux dire, on risque de se faire taper sur les doigts. Et c'est dire le courage de ces gens. Mais de ces ouvriers. Mais il y a aussi des interrogations qu'on peut avoir sur le rôle de ces ONG qui aident indéniablement, qui sont sans doute indéniablement utiles, mais qui viennent de l'extérieur aider les gens en disant on va vous sortir de là, mais sans leur suggérer de s'organiser eux-mêmes, à la différence de l'action syndicale qui suppose que le représentant syndical, comme son nom l'indique, représente les ouvriers, représente les salariés, et l'idée c'est que dans la lutte, eh bien les salariés, les ouvriers eux-mêmes se développent et s'émancipent. Là, c'est pas le cas, et c'est toute l'ambiguïté, la réserve qu'on peut faire sur l'action de ces ONG, et d'une ONG comme celle-ci, quelque soit évidemment son évidente utilité.
Pendant qu'on parle, là, un de nos amis de IPSA est en train de prendre les noms des uns et des autres qui vont assister à la réunion, et puis on a mis une bannière derrière toi, sur le mur. Là.
Échange d'idées entre les ouvriers qui travaillent sur le chantier.
Qu'est-ce que vous pourriez faire pour changer votre condition?
Personnellement, nous ne pouvons rien faire pour changer notre condition.
Comment on peut changer les choses?
Moi, je ne peux pas donner une solution. Je suis ici aujourd'hui, peut-être je ne serai pas ici demain. Donc, jusqu'à aujourd'hui, si je poursuis, c'est bon. De demain, je penserai plus tard.
Ah, tu vis au jour le jour, quoi. Tu ne sais pas ce que tu vas faire demain. C'est donc très difficile de créer une association parce que c'est un travail précaire, c'est un travail intérimaire. Les gens qui sont là n'ont pas le cul sorti des ronces. Dis-moi un petit peu, la réunion a commencé, nous on s'est mis de côté.
Est-ce que
vous êtes éduqué? Est-ce que tu sais lire écrire?
Oui. Alors, il lui demande « lis ».
Il faut lire la banderole qui a été...
Il lui demande de lire, mais il n'arrive pas. Il dit que c'est une réunion, un échange d'idées avec les ouvriers sur le chantier. Alors ça veut dire, nous sommes tous ensemble ici, nous allons parler de votre problème et comment on peut les résoudre. Nous venons d'Ipsa.
Ipsa. আমরা এরকম আপনাদের সাথে এই জায়গায় এই যে আপনার ভাটির এই মারাম বিহার কদমতলি তো অনেক জায়গায় শিব কাটে না সব
জায়গায়
বলি.
Nous disons la même chose avec tous les ouvriers qui travaillent dans les chantiers différents. Mais vous ne portez pas de casque. Si quelque chose lourd tombe sur votre tête, qu'est-ce que vous allez faire sans casque? Mais on n'a pas de casque, on n'a pas de gants, il faut seulement faire attention quand on travaille. Il faut dire à votre compagnie de vous donner les casques, les bottes et les masques et les gants.
Ça,
c'est nécessaire pour votre sécurité.
Des réunions que tu devais avoir à l'Angleterre au 19e siècle, où tu avais des militants socialistes qui venaient conscientiser les ouvriers. C'est exactement la même chose.
En tous les cas, c'est bien que vous soyez là, et puis j'espère que vous allez arriver à vous organiser et vous défendre par vous-même. Et on vous souhaite d'y arriver, on vous souhaite de vous battre, de lutter et d'améliorer votre sort. Merci à tous, et puis on vous souhaite bonne chance.
En attendant, on nous demande de signer nous aussi le registre de présence à la Réunion.
Et
voilà, c'est ceux qui participent à la Réunion, il faut mettre ton nom et signer. Et regarde, quand on regarde les autres pages précédentes de toutes les réunions précédentes qu'il y a eu, et ceux qui ne savent pas signer, hop, ils mettent leur empreinte digitale avec le doigt.
Avec le tampon. C'est bon.
Là, ce soir-là, ils n'étaient pas nombreux à savoir écrire. Voilà. Alors toi, t'es le numéro 20 de la réunion de ce soir.
Oui, mais alors, je sais pas. Alors, t'as continué. Il est
né, hein, Michel. Nice. Thank you.
Merci à tous. Merci à Salim Moula Selim, le syndicaliste. Merci à Siradouddin Belal de Ipsa. Merci à Mamoun Abdullah du journal Proto Malo, à Doulandash. Merci à notre traductrice Zarine Chaudoril. C'était un reportage avec Guy Vanctil. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste géniale, montée par Coy Nguyen et Guy Vanctil, assisté de Pascal Yello et Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37.